coucher du soleil, il s'accroupit au bord du sentier, se fit cuire un frugal dîner, écouta le feu crépiter tandis qu'il portait la nourriture à sa bouche et mastiquait pensivement. Décembre 2032, le matin vert. Encore une journée passée, comme les 30 précédentes, à creuser des lobes une multitude de trous bien nets, à y déposer des semences et à porter l'eau des canaux brasillants. À présent, allongé par terre, son corps frêle, écrasé de fatigue, il regardait le ciel s'assombrir de nuance en nuance. Il s'appelait Benjamin Driscoll, et avait 31 ans. Et son unique désir était de voir Mars verdoyer, se couvrir d'arbres et de feuillages qui produiraient de l'air, toujours plus d'air, et y croîtraient au fil des saisons. Des arbres pour rafraîchir les villes au plus fort de l'été, des arbres pour faire obstacle au vent d'hiver. Un arbre avait tellement de fonctions. Apporter une note de couleur, fournir de l'ombre, donner des fruits, servir de terrain de jeu aux enfants, leur offrir tout un univers aérien où grimper et se suspendre. Une architecture dispensatrice de nourriture et de plaisir. Voilà ce qu'était un arbre. Mais avant tout, les arbres distilleraient un air revigorant pour les poumons et un bruissement doux à l'oreille. Berceur quand la nuit, dans un lit neigeux, on s'abandonnerait au sommeil. Il écoutait la terre sombre se recueillir dans l'attente du soleil, des pluies encore à venir. L'oreille collée au sol, il entendait le pas lointain des années futures, et il imaginait les graines semées du matin surgissant du sol en pousses vertes, prenant possession du ciel, déployant une branche après l'autre jusqu'à ce que Mars ne soit qu'une forêt d'après-midi, un verger resplendissant. Au petit matin, quand le soleil plichon commencerait à se lever dans le moutonnement des collines, il serait debout, et, après avoir expédié en quelques minutes un petit déjeuner au goût de fumée, et piétiner les cendres de son feu, il se mettrait en route avec ses sacs à dos pour éprouver le sol, creuser, planter des graines et des pousses, tasser légèrement la terre, arroser, et ainsi de suite, tout en sifflant et en regardant le ciel, de plus en plus lumineux, aller vers un midi brûlant. « Il te faut de l'air, » dit-il à son feu nocturne. Ce compagnon rougeoyant et pétulant, qui vous retournait des réponses crépitantes, dormait à côté de vous, dispensant tout au long de la nuit frisquette la chaleur de ses yeux roses ensommeillés. Nous avons tous besoin d'air. Il est rare sur Mars. On se fatigue tellement vite. C'est comme si on vivait dans les Andes, en Amérique du Sud, sur les sommets. On respire et rien ne vient. On reste sur sa faim. Il palpa sa cage thoracique, comme elle s'était développée en un mois, pour avaler plus d'air. Tout le monde devait se construire des poumons adéquats, ou planter toujours plus d'arbres. « C'est pour ça que je suis là, » dit-il. Le feu pétilla. À l'école, on nous racontait l'histoire de Johnny Pépin de Pomme, qui arpentait l'Amérique en plantant des pommiers. « Eh bien, je fais mieux. Je plante des chênes, des ormes, des érables, toutes sortes d'arbres, des trembles, des cèdres, des châtaigniers. » Au lieu de faire simplement pousser des fruits pour le ventre, je fabrique de l'air pour les poumons. Quand un jour ces arbres auront grandi, songe à l'oxygène qu'ils produiront. Il se souvenait de son arrivée sur Mars. Comme un millier d'autres, il avait écarquillé les yeux sur un matin silencieux et pensé « Comment vais-je trouver ma place ici? Que vais-je y faire? Y a-t-il un travail pour moi ?» Puis il s'était évanoui. Quelqu'un lui avait fourré une fiole d'ammoniac sous le nez, et il était revenu à lui en toussant. « Ça va aller, » lui dit le docteur. « Qu'est-ce qui m'est arrivé ?»« C'est la raréfaction de l'air. Certains ne le supportent pas. Je crains que vous ne soyez obligé de retourner sur la terre. »« Non !» Il s'assit et sentit presque aussitôt un voile noir lui tomber sur les yeux, et Mars tournait deux fois au-dessous de lui. Ses narines se dilatèrent, et il força ses poumons à aspirer une grande bouffée de vide. « Ça ira, » dit-il. « Il faut que je reste ici. Ils le laissèrent allongé, suffoquant, en proie à d'atroces mouvements convulsifs, comme un poisson hors de l'eau. Et il pensait. L'air. L'air. Ils veulent me renvoyer à cause de l'air. Il tourna la tête pour regarder les plaines et les collines martiennes. Il accommoda, et la première chose qu'il remarqua fut le manque d'arbres, l'absence totale d'arbres à perte de vue. Le sol était nu. Un sol de terreau, mais sans rien dessus, pas même de l'herbe. L'air, songea-t-il, cette chose impalpable qui siffle dans les narines. L'air, l'air, et au sommet des collines, ou dans leur ombre, ou même au bord des ruisseaux, pas un arbre, pas le moindre brin d'herbe verte. Bien sûr, la réponse ne venait pas de son intelligence, mais de ses poumons et de sa gorge. Et cette pensée lui fit l'effet d'une brusque bouffée d'oxygène pur et le remit debout. Des arbres et de l'herbe. Il abaissa les yeux sur ses mains et les retourna. Il planterait des arbres et de l'herbe, tel serait son travail. Combattre ce qui précisément risquait de l'empêcher de rester ici. Il mènerait une guerre horticole personnelle contre Mars. Le sol d'autrefois était là, ainsi que ses plantes, si anciennes qu'elles s'étaient épuisées. Mais si on introduisait des espèces nouvelles, des arbres de la terre, de grands mimosas, des sols pleureurs, des magnolias et de magnifiques eucalyptus, hein? Allez savoir quelle richesse minérale était cachée dans le sol, inexploitée en raison de l'exténuation des antiques fougères, fleurs et broussailles. « Laissez-moi me lever, » cria-t-il. « Il faut que je voie le coordinateur. » Le coordinateur et lui avaient passé toute une matinée à discuter pousses et verdures. Il faudrait des mois, sinon des années, avant qu'une plantation organisée soit entreprise. Jusqu'à présent, on faisait venir des aliments congelés de la terre dans des blocs de glace volants. Quelques jardins communautaires verdissaient dans des usines hydroponiques. « En attendant, dit le coordinateur, ce sera votre travail. Nous vous fournirons ce que nous pourrons en matière de semences et un petit équipement. On ne dispose plus que d'un espace très limité dans les fusées. Nos premières villes étant des communautés minières, je crains que vos plantations d'arbres ne suscitent guère de sympathie. Mais vous m'en donnez l'autorisation ?» On la lui donna. Muni d'une simple motocyclette, sa remorque chargée d'un riche assortiment de graines et de pousses, il avait arrêté son véhicule au beau milieu de la désolation et commencé à sillonner le paysage à pied. Il y avait 30 jours de cela, et il n'avait jamais jeté un coup d'œil en arrière, car ce coup d'œil lui aurait fait mal au cœur. Une extrême sécheresse sévissait. Il était douteux que les graines aient déjà germé. Toute sa campagne, ses 4 semaines passées à se casser les reins et à creuser, étaient peut-être perdues. Il gardait les yeux fixés devant lui, s'enfonçant dans cette vallée peu encaissée, loin de Ville 1, appelant les pluies de ses vœux. Et voilà que des nuages s'amoncelaient sur les sommets desséchés, au moment où il tirait sa couverture sur ses épaules. Mars était un monde aussi imprévisible que la ligne du temps. Il sentait les collines recuites se refroidir à mesure qu'elles sombraient dans la nuit glaciale, et songeait au sol riche, noir d'encre, si noir et luisant qu'il semblait doué de vie au creux de la main. Un sol de premier ordre, susceptible de produire des tiges de haricots gigantesques qu'il suffirait de secouer assez fort pour qu'il en tombe des géants hurlants. Le feu tremblota, se réduisant peu à peu à des cendres ensommeillées. Le ciel fut ébranlé par le roulement lointain d'une roue de charrette. Le tonnerre. Une soudaine odeur d'eau. « Cette nuit, » se dit-il. Il tendit la main dans l'espoir de sentir des gouttes. « Cette nuit. » Une petite tape sur le front le réveilla. De l'eau lui coulait le long du nez pour s'infiltrer entre ses lèvres. Une autre goutte lui toucha l'œil, lui brouillant la vue. Une autre lui éclaboussa le menton. La pluie. Pure. Douce, clémente, élixir de choix distillé par le ciel. Elle avait un goût d'enchantement, d'étoiles et d'air, relevé d'une pointe de poivre, et glissé sur sa langue comme un chéri exceptionnellement léger. La pluie. Il s'assit et laissa retomber sa couverture et se consteller sa chemise de toile bleue, tandis que les gouttes se faisaient plus substantielles. On aurait dit qu'un animal invisible dansait sur le feu, le tassant jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'un filet de fumée irrité. La pluie tombait. Le grand couvercle du ciel se brisa en 6 éclats bleuâtres pulvérulents, tel un vernis fendillé à souhait, et s'effondra. Il vit des milliers de gouttes cristallines hésiter le temps qu'il fallait pour être photographiées dans le flash de la décharge électrique. Puis, il n'y eut plus qu'eau et ténèbres. Il était trempé jusqu'à l'os, mais le visage levé, laissant l'eau lui fouetter les paupières, il riait. Il frappa des mains, bondit sur ses pieds, se mit à marcher autour de son modeste bivouac, et il était 1 heure du matin. La pluie tomba sans interruption 2 heures durant, puis s'arrêta. Les étoiles réapparurent, lavées de frais, et plus brillantes que jamais. Après avoir enfilé des vêtements secs, prélevés en leur emballage de plastique, Benjamin Driscoll s'allongea, et tout joyeux, se rendormit. Le soleil se leva lentement parmi les collines, inonda le paysage en toute tranquillité, et réveilla Benjamin Driscoll là où il s'était couché. Il attendit un moment avant de se mettre debout. Il avait travaillé et patienté tout un long mois torride, et une fois sur ses jambes, il se retourna enfin et regarda dans la direction d'où il était venu. C'était un matin vert. À perte de vue, les arbres se dressaient sur la toile de fond du ciel. Non pas un ou deux arbres, ni une douzaine, mais des milliers qu'il avait plantés en pousses ou en graines. Et non de petits arbres, non. Ni de jeunes arbres, ni de petites pousses tendres, mais de grands, d'immenses arbres hauts comme 10 hommes, verts, énormes, ronds et pleins. Des arbres qui miroitaient de toutes leurs feuilles aux reflets métalliques. Des arbres murmurants, des arbres en ligne continue qui submergeaient les collines, citronniers, limetiers, séquoias et mimosas, chênes, ormes et trembles, cerisiers, érables, frênes, pommiers, orangers, eucalyptus, aiguillonnés par une pluie tumultueuse, nourris par un sol étranger et magique, et, sous ses propres yeux, continuant de lancer de nouvelles branches, de faire éclater de nouveaux bourgeons. « Impossible !» s'écria Benjamin Driscoll. Mais la vallée et le matin étaient verts. Et l'air, de partout, comme une eau vive, un torrent de montagne, affluait l'air nouveau. L'oxygène dégagé par la verdure. On pouvait le voir chatoyer tout là-haut en tourbillon cristallin. L'oxygène, frais, pur, vert. L'oxygène qui transformait froidement la vallée en un véritable delta. D'un instant à l'autre, les portes de la ville s'ouvriraient en grand. Les gens sortiraient en courant pour se précipiter dans cet oxygène miraculeux, le reniflant, s'engorgeant à pleine goulée. Les joues rosies, le nez gelé, les poumons revivifiés, le cœur bondissant et le corps, si usé soit-il, soulevé par des envies de danser. Monsieur Benjamin Driscoll s'octroya une grande gorgée de cet air vert d'eau et s'évanouit. Avant qu'il n'ait repris connaissance, 5000 arbres nouveaux s'étaient dressés dans le jaune du soleil. Le matin vert, Ray Bradbury, extrait des Chroniques martiennes.